le club notarial immobilier, jeudi 7 septembre 2023.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau club notarial immobilier. Nous sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au marché de l'immobilier neuf en Île-de-France. Situation et perspective. Quel avenir pour le marché immobilier neuf en Île-de-France ? C'est ce dont nous allons discuter avec notre invité du jour, notre grand invité, Bruno Alloin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de Dream et également co-président de la FPI Île-de-France, fraîchement élu, hein, puisque cela s'est passé hier soir lors de votre Assemblée Générale. On en parlera dans quelques instants. Ensemble, nous allons donc faire un point sur la conjoncture du secteur, sur les conséquences que cela engendre et votre expertise, évidemment. Quelles solutions pour y faire face ? En plateau également, Marc Cagnard, président de la Chambre des notaires de Paris. Bonjour, maître.
Bonjour, Bérénice.
Nous allons commencer avec vous dans quelques instants. Élodie Frémont, bonjour.
Bonjour.
Présidente de la Commission des statistiques immobilières et également notaire à Paris. Nous allons faire avec vous un récapitulatif du marché immobilier en Île-de-France pour ce deuxième trimestre 2023, ainsi que les perspectives. Avant de commencer, je vous précise que vous pouvez poser des questions sur le chat, sur la plateforme. Nous y répondrons aux alentours de midi, donc n'hésitez pas, posez vos questions dès maintenant, on les note. On commence donc avec vous, Marc Cagnard.
Merci Bérénice, merci pour votre accueil. Et évidemment, c'est un plaisir de vous accueillir et de pour ce nouveau club de l'immobilier pour le deuxième trimestre. Tout à l'heure, Élodie va nous en donner les chiffres. Je suis très heureux de voir et de rencontrer Monsieur Dalloin. Et puis, évidemment, tout le monde le sait, le marché du logement a considérablement évolué ces derniers temps. On va dire que tout baisse, les volumes, les prix, ce qui continue à monter, c'est les taux d'intérêt, ce qui nous pose des problèmes. Et en fait, on a aujourd'hui un problème d'ajustement entre les prix et puis les taux d'intérêt qui, quelque part, ne sont pas des vases communicants, mais il faut que les prix baissent pour pouvoir rejoindre la demande des acquéreurs et notamment des primo-accédants qui sont dans une situation très difficile. Donc, évidemment, on pourrait se lamenter de la situation. Maintenant, on va aussi faire des propositions, et notamment l'Alliance des professionnels de l'urbanisme et de l'immobilier. On a décidé de faire une communication commune pour faire des propositions concrètes, structurelles ou conjoncturelles, peu importe, mais il faut les deux, parce que malheureusement, on est au regret de devoir constater que les pouvoirs publics ne font pas grand-chose. Et donc, les acteurs du terrain vont pouvoir peut-être apporter des solutions issues de la pratique quotidienne de nos métiers et conjointement d'apporter des solutions pour résoudre ou résorber ce problème qu'on rencontre actuellement. Et évidemment, il n'y a pas que le marché immobilier ancien, il y a aussi le problème structurel qu'on rencontre de production de logements en Île-de-France. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité que M. Alloin soit ici présent pour pouvoir nous livrer sa vision, en tout cas, du poste qu'il occupe depuis 24 heures, si j'ai bien compris. Sa vision, ses préconisations, c'est peut-être ses solutions et de nous faire un état des lieux. Et donc, avant de vous laisser la parole, je crois que c'est à Élodie de nous présenter les chiffres des statistiques de la base des notaires du Grand Paris. Élodie, je te laisse la parole.
Merci Marc. Alors malheureusement, contrairement à la couleur de ma robe, tout n'est pas au beau fixe, la couleur de l'espoir, mais on a titré ce deuxième trimestre 2023 par « Le printemps de l'immobilier n'a pas eu lieu ». On a des chiffres à la baisse et de façon tristement homogène à la baisse, dans des proportions importantes, disons-le. On avait déjà annoncé au premier trimestre qu'on constatait une petite déclinaison. On avait été des enfants très mal éduqués parce que pendant la période Covid, on a eu la chance d'avoir des dossiers de crédit très faciles à monter, des taux d'intérêt très performants, sur des longues durées, des stocks de produits sans aucune difficulté. Donc, la vente, l'achat se faisait de façon décousue, voire pas chronologique, mais tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Et on finançait, en tout cas, monsieur le banquier, finançait jusqu'à 110% de l'investissement, c'est-à-dire pas seulement le prix, mais les frais, les travaux, etc. Et là, nous sommes au regret d'avoir constaté que le volume des ventes est en net recul. Sur l'ensemble de l'Île-de-France au deuxième trimestre, il est en chute de 25%, ce qui est très important. Et surtout, ce chiffre est constaté à la baisse de 9% sur la moyenne des 10 dernières années pour le même trimestre, deuxième trimestre. Donc le marché n'est plus fluide. La machine s'est donc enrayée. Comme l'a dit très justement notre président, il y a des solutions à tout problème. Et évidemment que les notaires ne vont pas rester fatalistes et vont contribuer à des propositions, à commencer par celles qui vont intervenir très prochainement, entre le 27 et 29 septembre prochain, par l'intermédiaire du Congrès des notaires qui traite, sujet d'actualité, du logement et en tout cas du marché du logement, des difficultés à se loger ou du mal loger. Alors, les causes de ces contre-performances, disons-le, sont les mêmes que les trimestres précédents. C'était vu il n'y a pas très longtemps et j'en suis au regret, mais rien n'a changé. Ça s'est un petit peu amplifié, malheureusement. Les crédits à l'habitat sont plus compliqués à obtenir. La Banque de France l'a dit, hein, dans les flux, on constate une baisse de 40%. Ils sont plus coûteux. On est passé des taux d'intérêt à 1%. Aujourd'hui, on est plutôt à 4,5%. Et ça ne va pas s'arranger, selon les annonces de la Banque Centrale Européenne. Le climat économique est tendu. On sait très bien que ça va impacter le marché de l'emploi, donc ça ne va pas aider sur la solvabilité des ménages. Et on a un contexte inflationniste, qui est pénalisant sur le pouvoir d'achat, mais du coup sur le coût de la construction, sur le coût des matières premières, sur le coût des travaux, sur le coût de l'énergie, bref, qui a un impact sur le marché immobilier. Alors, à cela s'ajoute l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la rénovation énergétique, qui, comme diraient certains, il faut qu'on y passe, sauf que la difficulté fait que toutes les conjonctions font que ça ne s'arrange pas. Et dans les projections à venir, les économistes confirment un resserrement monétaire dans les prochains mois, une baisse des prix qui, dans un premier temps, avait permis un peu d'air sur ce marché, mais qui est très largement insuffisante pour permettre une solvabilité retrouvée chez les ménages. Donc les perspectives sont dégradées. Alors, une fois que j'ai dit ça, voyons les chiffres, ce sera nettement plus concret. Eh bien, vous voyez, on a été contraint de créer une petite colonne rose pour décliner non pas le moins, que vous voyez qu'on on est sur 4 trimestres négatifs, mais surtout le fait que l'on a passé, malheureusement à la baisse, le seuil de la moyenne des 10 dernières années sur les deux trimestres précédents. Et malheureusement, ça va de façon croissante avec un petit effet levier qui est très désagréable, puisqu'on a débuté avec un troisième trimestre 2022 à moins 5%, ensuite moins 8%, plus du double, moins 17%. Et là, nous atteignons les moins 25% de transactions, ce qui est très sensible. Qu'en est-il sur les prix? Sans grande surprise, en Île-de-France, le marché est ralenti en volume et les prix sont impactés. Alors nous, les notaires, on n'est pas les seuls, on préfère un prix impacté, mais des volumes qui se tiennent, parce que ça veut dire une fluidité du marché, ça veut dire de la solvabilité, ça veut dire de l'économie, ça veut dire du neuf qui travaille. Mais là, malheureusement, quand il n'y a plus de fluidité du marché, les tensions s'en ressentent également sur les prix. On a un marché qui est maintenant acquéreur. Donc en Île-de-France, vous pouvez constater qu'on a une baisse de 13%. Sur les 12 derniers mois. Alors certes, il faut le comparer avec 2022 qui était exceptionnel, mais quand on regarde cette baisse, elle est sensible, encore une fois, sur les 10 dernières années. Sur cette moyenne, on constate une baisse de 9%. Elle est un peu moins forte au premier trimestre, moins 6%. Passons maintenant au marché plus détaillé de l'appartement ancien en Île-de-France. Comme tout le marché, il en souffre, tout le marché de l'immobilier. Et comme je vous l'ai dit en titre introductif, malheureusement, le marché est très homogène. Alors, au deuxième trimestre 2023, les prix, en tout cas la baisse des prix, s'amplifie. Le repli de l'activité, vous le voyez, est en effet en net repli également avec un moins 25% qui est affiché. On est, alors pas à moins 9%, mais à moins 5% sur les appartements en comparaison à la moyenne du deuxième trimestre sur les 10 dernières années. Et c'est 119 220 transactions qui ont été enregistrées, soit moins 11% d'appartements vendus sur les 12 derniers mois. La tendance prix, la voici. On a un prix moyen affiché à 6 530 € le mètre carré au deuxième trimestre 2023, une baisse de 3,7%. Encore une fois, ce marché est tristement homogène. Les perspectives sont-elles heureuses? Ce n'est pas une très très grande surprise. Quand on a 4 trimestres de volume négatif, on peut s'imaginer que le cinquième va pas remonter comme une flèche. Donc on a une baisse des prix des appartements qui va s'accentuer pour dépasser les 5% en rythme annuel en octobre 2023, avec un prix de 6 470 € le mètre carré en octobre prochain en Île-de-France. Peut-être que cette tendance, différence de marché, s'estompe un peu plus. Avant, on avait des secteurs de marché plus impactés que d'autres. Pensons très clairement à la maison en grande couronne qui, elle, subissait un peu moins la crise. Ben là, le printemps de l'immobilier n'a pas eu lieu et a impacté tout le monde, dont la maison qui, elle, normalement bénéficie d'un effet saisonnier. Qu'en est-il justement de cette maison en Île-de-France ? Eh bien, sans surprise encore une fois, alors elle a été plus impactée que les autres segments de marché, puisque la maison, elle, a connu plus de succès post-crise sanitaire. Et donc, c'est une baisse de 18% du volume de transactions sur 12 mois, moins 18% comparativement à la moyenne des 10 dernières années sur ce deuxième trimestre. Et pour la première fois depuis 2015, l'évolution annuelle des prix est en négatif, on est à moins 1,9%. Voilà, donc au deuxième trimestre, le marché de la maison ancienne subit le choc le plus sévère avec une baisse d'activité de 27% par rapport au deuxième trimestre 2022. Alors c'est typiquement le marché qui souffre le plus. Pourquoi ? Parce que le prix facial est peut-être un peu plus important. Le marché est resserré. Pendant la période sanitaire, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes de maisons avec jardin ou d'appartements au rez-de-chaussée ou avec terrasse. Et puis c'est elle aussi qui souffre des coûts économiques constants. Il faut que je prenne ma voiture, le coût de l'essence a augmenté. Le coût de l'énergie a augmenté, le chauffage coûte plus cher. Bref, la maison paye plus, en tout cas en perte de volume. Qu'en est-il des prix au mois d'octobre prochain ? La projection est exactement similaire à l'ensemble des secteurs de marché. On a dit tout à l'heure à moins 5% pour les appartements. Et bien on est à moins 5,2% sur le marché de la maison. C'est très, très homogène, malheureusement. Alors, si on parlait maintenant du marché parisien, qu'en est-il sur ce marché parisien ? Alors, il avait un petit peu résisté en termes de volume, et d'ailleurs, vous allez vite le voir sur les volumes de vente. On peut constater évidemment une très forte baisse des nombres de ventes. On était à 11 000 ventes au deuxième trimestre 2022. Vraiment, le marché parisien en matière de volume résistait bien. Et là, on est passé au deuxième trimestre 2023 à 8 500 ventes. C'est une baisse de 23%. Alors, quel que soit le marché, quelle que soit la région, vous verrez malheureusement une déflagration sur les volumes de transactions qui commence par un 2 et qui est à deux chiffres. Cependant, il faut encore dire que en 2022, le trimestre était très bon. Concernant les prix, on l'a dit et sans aucune surprise, on a une variation à la baisse avec un recul annuel d'environ 4,4%, un prix mètre carré parisien qui ne passera pas en dessous de la barre des 10 000 euros le mètre carré, en tout cas pas sur ce deuxième trimestre 2023. Donc on a un marché qui est baissier, qui est évidemment favorable à l'acquéreur, mais pas n'importe quel acquéreur. On a pu le constater, ce sont des acquéreurs plutôt étrangers, plutôt plus aisés, pour qui la demande en financement est moins importante. Autrement dit, ce sont ceux qui ont un apport comptant, donc du cash plus important. Et c'est eux qui ont donc la main sur ce marché.
Et je crois que vous avez déclaré, en revanche, qu'ils étaient quand même plus exigeants que l'an passé.
Absolument. Si j'ai un marché acquéreur, autant vous dire que le zéro défaut ne va pas passer. L'évolution des prix sur le marché parisien, sans aucune surprise, avec un volume à la baisse, mais des prix à la baisse. En octobre prochain, on devrait arriver à une baisse annuelle des prix qui va dépasser les 5%, 5,3%. Et cette tendance baissière s'accentue et elle va probablement continuer. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt ne baissent pas. Et encore une fois, le marché reste tendu. Qu'en est-il des prix mètre carré par arrondissement ? Donc, on l'a dit, peut-être, on l'avait déjà annoncé au premier trimestre. Alors, autosatisfaction oblige, on le redit. Nos indicateurs avancés des avant-contrats nous permettent d'assurer quand même des réponses qui sont très, très proches de ce que l'on confirme le trimestre suivant. On n'a pas dépassé le seuil des 10 000 euros à la baisse. Vous notez, il y a un effet croissant, c'est-à-dire que tous les arrondissements périphériques sont plus impactés avec des prix à moins de 9 000 mètres carrés. Et le centre de Paris est toujours à plus de 12 000 euros le mètre carré. En revanche, le 6e avait dépassé les 14 000 euros. Ça n'est plus le cas. On constate une forme de croissant, comme je l'ai dit, qui débute du 18e pour se terminer dans le 15e arrondissement. Et vous voyez que l'Ouest est moins touché. Autrement dit, 16e, 17e arrondissement moins touché. Alors, qu'en est-il de la variation annuelle des prix par arrondissement ? Là, malheureusement, c'est rose, trop rose, bien trop rose. Désormais, on a 8 arrondissements qui sont en dessous des 10 000 euros le mètre carré. En fait, tous les arrondissements ont enregistré une baisse qui est supérieure de 1%. Et le 14e arrondissement, on ne se l'explique pas encore, a même baissé de près de 8%. Les quartiers les plus impactés sont ceux qui ont moins la cote. Ce sont le 18e, le 19e arrondissement, c'est-à-dire le quartier de la Chapelle et la Villette. Peut-être avait-il connu un plus grand succès en 2022. Un report de marché, prix plus attractif et forcément, ça fait monter les prix. Et là, aujourd'hui, ce sont eux qui subissent ces moins-values. Les quartiers les plus chers de Paris restent dans le centre et les quartiers de prédilection, encore une fois, des étrangers ou des CS++, que sont le 7e, le 6e, le centre de Paris. Le quartier qui a connu la plus grosse plus-value, c'est le 7e. Dans le 7e, le quartier des Invalides, avec un 17 070 euros le mètre carré sur une transaction, on a un prix qui augmente de 5%. Petite couronne. Alors, en matière de volume, pas de surprise. Pour ce qui est des appartements anciens, on constate une baisse de 26% entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023. Pas de surprise. Elle est inférieure de 10% par rapport au deuxième trimestre moyen des 10 dernières années. Et on continue malheureusement ce repli qui est plus sensible en Haute-Seine qu'en Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Un peu le même constat, entre parenthèses, que la cartographie parisienne. En termes de volume maison ancienne dans la petite couronne, alors le marché évidemment et les statistiques sont plus restrictives, mais le volume des ventes des maisons sont en baisse, à savoir 33% de moins entre le deuxième trimestre 2022 et celui de 2023, moins 24% par rapport à la moyenne du deuxième trimestre sur les 10 dernières années. C'est donc un marché fortement baissier. Qu'en est-il des évolutions des prix des appartements? Toujours le même mouvement, entre 5 et 6%. Là, sur les appartements, l'effet baissier sera de 4% pour se placer à 5 270 euros le mètre carré. Et cette baisse de prix se retrouve de manière très homogène, encore une fois, quels que soient les départements de la Petite Couronne. On oscille entre moins 4% dans les Hauts-de-Seine, moins 3,4% dans le Val-de-Marne, avec une évolution future qui va certainement approcher les moins 6%. Qu'en est-il maintenant des prix des maisons en petite couronne? Alors, en termes de prix, pareil, un ajustement léger, baissier de 2%. Un prix de la maison ancienne en petite couronne qui s'estime à 426 900 euros, avec 707 400 euros dans les Hauts-de-Seine et le grand écart, 321 900 euros en Seine-Saint-Denis. Et dans le futur, un constat à la baisse au mois d'octobre prochain, certainement proche des 5%. Encore une fois, on est vraiment dans un mouchoir de poche. En grande couronne, qu'en est-il? Alors, la maison en grande couronne avait connu un grand succès, encore une fois, post-crise sanitaire. Eh bien, c'est dignement dans le profil de Paris, petite couronne. Et pour une fois, la grande couronne ne se démarque pas de ses voisins. Elle subit le même choc, avec des tendances baissières tout à fait constatées. Un net recul des volumes des ventes au deuxième trimestre 2023, encore une fois, qui commence avec un 2, un moins 24% en comparaison avec le deuxième trimestre 2022, qui était marqué, encore une fois, par une activité très dynamique. On avait eu un trimestre record au deuxième trimestre 2021. En comparaison avec la moyenne des 10 dernières années, c'est peut-être là la seule note positive de cette journée, c'est qu'on constate un plus de 2% sur l'ensemble de la petite couronne, avec des pertes en Seine-et-Marne de 28% de volume de vente, 25% dans les Yvelines. Bref, on est proche des 20%, quel que soit le département. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Progression respective de 2%, 3% en comparaison avec la moyenne des 10 dernières années. Encore une fois, ce sont les deux notes positives. Les maisons vont subir une baisse de 25% des volumes de vente en comparaison avec le deuxième trimestre de l'année 2022. Et de moins 15% si on prend la moyenne sur les 10 dernières années de ce deuxième trimestre. Elle est assez homogène, encore une fois, cette baisse, quels que soient les secteurs, quel que soit le marché, quelle que soit la région. Et encore une fois, le post-confinement avait permis une envolée des maisons. Et malheureusement, ça y est, la maison souffre des mêmes perspectives. Alors, sur le slide suivant, on va observer en détail le prix au mètre carré des appartements anciens en grande couronne. Alors, les Yvelines connaissent la plus forte baisse avec un moins 2,1%. Le Val-d'Oise recule de 1,6%, l'Essonne 1,3%. Encore, les prix sont encore un peu élevés, mais évidemment, on commence à franchir le négatif. Qu'en est-il des projections de ces prix? Sans aucune surprise, encore à la baisse, du moins 1,7% à ce trimestre qui va se concrétiser aux alentours des moins 5%, comme tout ce qu'on a dit auparavant, que ce soit Paris, Petite Couronne, avec les mêmes causes, les mêmes effets. taux d'intérêt. Bref, il n'y a pas d'essence dans la voiture. Ce qui l'on aurait espéré, c'est que cette petite inflexion des prix relance, donne un petit souffle d'air au marché. Mais vous le verrez, sur les maisons, c'est plutôt l'inverse. On ne touche plus à sa maison. On y est tellement bien qu'on ne veut plus s'en aller. Et surtout, on a un taux d'intérêt tellement attractif qu'on n'a pas du tout l'intention de perdre ce taux d'intérêt à 1% pour déménager et acheter une maison avec peut-être un intérêt à 4-5%. Et la mauvaise nouvelle que l'on a indiquée, c'est que de toute façon, ça ne va pas s'arrêter. Si on se projette sur les 3 prochains mois grâce aux données des avant-contrats, eh bien, la baisse des prix des maisons atteindrait en octobre 2023 les moins 5,4% sur une année. Donc ça va gommer progressivement tout l'effet 2022 et ça va surtout gommer l'effet saisonnier. Normalement, le printemps a lieu plus que dans les maisons qu'autre part. Là, le printemps de l'immobilier n'a pas lieu. De façon générale, cette diminution des prix reste quand même modeste au regard de la forte progression qui avait été connue en 2020. Mais malheureusement, la baisse des volumes est tellement importante qu'on ne peut pas ignorer le fait que les prix vont en souffrir. Alors, une petite note sur notre focus préféré. Alors, c'est pas que nous, mais je crois que vous êtes assez friands sur le pouvoir d'achat du francilien. Est-ce qu'il s'améliore? C'est un peu comme la tendance des chiffres qu'on a annoncé aujourd'hui. Mais surtout, dans quelle proportion? Alors là, pour le coup, c'est la même proportion que pour les volumes. C'est un peu triste. Mais vous voyez tout de suite que pour un appartement acquis en Île-de-France de 65 mètres carrés au prix de 436 200 euros en janvier 2022, si vous voulez acheter le même appartement, eh bien, votre trésorerie va être impactée puisque votre mensualité va être augmentée de 22%. Donc c'est extrêmement significatif. Si vous prenez le parti pris justement de voir plus petit parce que vous n'avez pas les moyens d'assumer cette mensualité, eh bien là, prévoyez que vous allez perdre au moins une pièce puisque la réduction de surface serait de 11,8 m². Pour les maisons, c'est encore pire. Pour les maisons, c'est encore pire parce que cette maison qui coûtait 354 800 euros en janvier 2022 et qui faisait une surface approximative de 150 mètres carrés, eh bien, en octobre prochain, soit vous augmentez votre mensualité de 26%, soit vous réduisez votre surface, là, c'est plus une pièce, c'est deux, de 20,7 mètres carrés. Donc, c'est extrêmement conséquent. Et puis, un constat, c'est que le candidat à l'acquéreur, fatalement, cette issue de ce focus ne sera pas le même. Ce sera forcément des gens qui ont, on l'a dit en introduction, un peu plus d'épargne, qui sont donc un peu plus regardants et qui vont donc un peu plus tirer sur les prix. Donc, une exigence qui va se concrétiser sur une tension encore plus accrue. Mais les notaires ne sont pas fatalistes et sont là pour aider à trouver des solutions. Donc, face à ces chiffres qui, forcément, on sème le doute, on est un peu tenté de faire des comparaisons avec les crises passées. Alors, des années 90, peut-être que j'étais trop jeune pour le voir, je ne veux pas en entendre parler, mais bref, les deux dernières crises connues, celle de 2008 et de celle du confinement, ce ne sont pas du tout les mêmes causes qui ont impacté ces crises immobilières. En revanche, un constat fort et matérialisé, c'est que ce sont toujours des crises, pas immobilières, mais des crises du logement. Et ce sont les mêmes crises que l'on retrouve avec les mêmes effets, enfin en tout cas les mêmes conséquences. On est mal logé, moins bien logé, voire pas logé. Et lors de ces constats, on a pu constater que ceux qui ont été le plus impactés, c'était qui? Les primo-accédants, que nous ne voyons plus dans nos études, ou très peu, ou alors aidés, fortement aidés. Fortement aidés par des prêts familiaux, amicaux, ou fortement aidés par leurs parents, parce qu'ils en ont la chance, qui font des dons familiaux, avec des abonnements quand même qui ne sont pas à la hauteur des investissements. Aujourd'hui, la franchise fiscale est de 30 865 euros. Donc, espérons que ça couvre la fiscalité de votre achat, mais encore. La deuxième fatalité, ce qu'on a pu constater, c'est que les pouvoirs publics avaient mis en place lors de ces deux crises des mesures pour inciter la politique de logement, mais pas seulement des mesures, ils l'avaient fait vite et ils avaient réagi très vite. Je crois qu'aujourd'hui, les travaux du CNR se clôturent. Je crois que ça fait déjà plusieurs mois, je ne vais pas être désagréable pour parler d'années, mais plusieurs mois qu'ils sont en instance. Le temps de réactivité n'est pas le même que celui de 2008, où il y avait eu des propositions qui avaient été impactantes, notamment sur le neuf. Alors évidemment, il y avait des dispositions fiscales très intéressantes, le périssol, l'eurobien, le Pinel qu'on a vu récemment et qui est en train de mourir de sa belle mort. Mais aujourd'hui, il faut répondre à cette demande. S'il n'y a plus de flux, il faut trouver des solutions alternatives. Nous sommes à même d'en apporter, mais nous ne sommes pas les seuls. Mon voisin va en apporter et j'ai déjà quelques idées, à mon avis, qui sont absolument récurrentes de ce que l'on a annoncé. Le congrès des notaires, qui va donc officier du 27 au 29 septembre prochain, propose également des solutions alternatives. S'il n'y a pas un impact l'impact fiscal immédiat, bah, peut-être qu'on peut jouer sur les flux. Alors comment fait-on ? Bah, peut-être qu'on peut reporter son crédit sur autre chose. Peut-être qu'on peut conserver une hypothèque et la transférer sur un autre bien. Peut-être peut-on éviter d'endommager encore plus la solvabilité du ménage en lui demandant un remboursement anticipé du crédit et de conserver ses taux attractifs sur une plus longue durée. Donc trouver des solutions alternatives. Il y a évidemment le statut du bailleur particulier qui va être envisagé par mes confrères. Et puis, il y a plus que jamais, et ça nous ne pouvons pas l'ignorer, une confiance du Français dans l'immobilier. On ne peut pas ignorer que le Français aime la pierre, pas seulement pour s'y loger, mais parce que c'est sa valeur refuge, c'est son coffre-fort, et psychologiquement, ça le rassure. On a parlé de la guerre en Ukraine lors de la conférence de presse, et ça avait eu un impact énorme sur la mentalité française, qui avait été plus rassurée en investissant plus dans l'immobilier. Et à l'heure actuelle, sujet d'actualité, bien entendu, il est certain que cet immobilier peut constituer votre complémentaire retraite. On voit trop souvent des alternatives telles que la vente en viager parce que ce bien immobilier permet de nous aider à aller plus loin. C'est 20% du PIB quand même, l'immobilier. C'est la deuxième préoccupation du notaire, du français, juste après l'alimentation, mais ça va le devenir aussi pour le notaire, je pense. Bref, on ne peut pas ignorer ce secteur du marché qui ne doit pas être éprouvé plus que de raison et qui, là, commence à montrer ses limites.
Eh bien, merci, Élodie Frémont, pour cette fine analyse du marché en Ile-de-France. Alors, je rappelle que nous lisons toutes vos réactions sur le chat, donc n'hésitez pas, écrivez-nous. C'est le moment de donner la parole à notre grand témoin. Je vous rappelle que chaque trimestre, dans le Club Notarial Immobilier, nous recevons un invité qui nous fait part de son expertise sur le thème de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est Bruno Alloin. Bruno Alloin, donc vous êtes fondateur de Dream et également co-président de la FPI, donc la Fédération des promoteurs immobiliers Île-de-France. Vous avez été élu, je l'ai dit en introduction, hier soir, lors de votre assemblée générale, avec votre partenaire. Hein, vous partagez la présidence, il s'agit de Julien Penzec. Alors, j'ai envie de vous poser la première question, pourquoi deux présidents ?
Bah parce qu'il y a des chantiers nombreux. Et puis, il y a des promoteurs différents. On a effectivement, j'ai envie de dire, un peu comme dans vos métiers, des collèges grands groupes et puis des collèges TPE-PME. Donc, pour être plus représentatif de ces métiers, on a, pour le cas de Julien Penzec, qui fait partie maintenant du groupe Altarea, donc un représentant d'un grand groupe, et puis moi qui vais tenter de représenter les PME, les TPE-PME. Donc, on a trouvé intelligent de rassembler ces deux compétences, on va dire, ou ces deux représentations pour, dans un marché où on vit tous la même crise structurelle et conjoncturelle, mais par contre avec des problématiques un peu différentes. Donc l'idée, c'est de porter la voix de tous les promoteurs d'Île-de-France et de France, puisqu'on fait partie de la Fédération des promoteurs nationaux, évidemment.
Alors on parlera de vos engagements un peu plus en détail tout à l'heure. On va peut-être commencer par faire un point sur la conjoncture du secteur en Île-de-France. En quelques chiffres, peut-être.
Hélas, je ne vais pas vous remonter le moral non plus, hein, parce que par rapport à ce qui vient d'être dit, on est effectivement dans une situation, donc si on peut montrer peut-être la première slide, on est dans une situation où effectivement, on est dans une contraction des mises en vente, hein, puisqu'on est sur un phénomène par rapport au S1 2022 de moins 48% de mises en vente. Hein, donc, mise en vente, ça veut dire que les promoteurs ont quand même validé un certain nombre d'éléments, notamment la fiabilité technique du bilan, hein, ça veut dire qu'on sent que le bilan peut fonctionner dans une gamme de prix, donc on met en vente, donc on voit qu'il y a une très très grosse contraction. On peut rentrer dans le détail de cette contraction, hein. Cette contraction elle est principalement due, vous l'avez évoqué, hein, à la hausse des prix, la rentrée des nouvelles normes, les coûts de portage puisque les prêts nécessaires pour faire les opérations immobilières, les taux ont augmenté de façon drastique. Donc, inévitablement, on se retrouve avec des frais financiers importants. Bref, tout ça concourt à l'augmentation des prix et donc à un bilan qui est de plus en plus compliqué à faire fonctionner. Donc, d'où, effectivement, un différé des opérations, soit un abandon des opérations. Et on constate, effectivement, un certain nombre d'abandons d'opérations. Vous dire combien elles représentent, je n'aurai pas les chiffres, mais en tout cas, avec les collègues promoteurs d'Île-de-France, on sent bien que quand on discute au niveau du bureau, on préfère différer plutôt que de partir dans des conditions qui sont pas maîtrisables.
Donc pas encore de data, mais en tout cas sur le terrain, c'est ce que vous constatez.
Bah, c'est tout au moins les data vont sortir, hein, parce que bon, là on est dans les premiers chiffres, hein, c'est les chiffres bruts qui datent d'hier soir, puisque ça c'est les sources CAPEM qu'on a reçues hier. Donc effectivement, on rentrera dans le détail de ces chiffres. Mais en tout cas, premier enseignement, c'est une contraction des mises en vente de moins 48%.
Alors les délais d'écoulement, évidemment, se sont rallongés.
Alors la slide suivante, effectivement, donc dans les mises en vente, ensuite on a les ventes. Donc les ventes aussi se contractent, hein, inévitablement, pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Hein, je veux dire, quelque part, on a les phénomènes d'augmentation des taux, le fait qu'il faut revendre pour pouvoir acheter. Alors ensuite... on n'a peut-être pas les mêmes problématiques en deuxième couronne qu'en première couronne, mais souvent en première couronne, si on ne revend pas un bien pour pouvoir fonctionner, c'est compliqué. Donc les prix étant ce qu'ils sont. Donc effectivement, une contraction des mises en vente. Et puis, ce qui veut dire qu'on constitue un stock d'opérations qui sont en vente. Et on a aujourd'hui effectivement un taux d'écoulement. Donc c'est les 17 mois, pour faire simple. Ça veut dire qu'on a quasiment un an et demi, si on part sur 18 000 ventes par an, on a quasiment un an et demi de stock de ventes. Donc ça veut dire que tout ça devient compliqué et n'engage pas effectivement la sérénité. Donc on a un vrai sujet conjoncturel et un vrai sujet structurel, et je crois que là on l'a partagé tout à l'heure. Donc effectivement, il faut qu'on fasse un travail commun de persuasion au niveau de nos gouvernants pour qu'ils comprennent que la pierre, c'est pas uniquement des lubies, mais c'est effectivement une vraie caractéristique du marché, de la philosophie française, on va dire. Alors ensuite, la slide, je sais pas si...
Alors juste peut-être pour en revenir sur les prix, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez évoqué ces prix qui augmentent en revanche. Peut-être nous approfondir un petit peu les causes de cette augmentation.
Bon, je crois que pour les professionnels que vous êtes tous, l'augmentation des prix, on la connaît. On a bon, d'abord les normes, la RE 2020. Alors, quand on a mis, la RE 2020 est arrivée en 2022, mais elle est arrivée en 2022 et on applique déjà la RE 2025, voire la RE 2028, puisqu'on nous demande systématiquement dans les engagements, tout le monde veut faire plus, c'est le monsieur plus. Donc, on continue à augmenter alors que les filières sont pas prêtes et on continue à augmenter les contraintes sur. Donc ça, c'est un élément qui est... Bon, il y a l'inflation, la guerre en Ukraine a créé effectivement un système inflationniste.
Sur les prix des matériaux, notamment.
Oui, sur les prix des matériaux, mais pas que les matériaux. Les salaires aussi ont suivi. Je veux dire, il y a aussi un phénomène, et je pense que ça, c'est l'économie en général. Hein. Il y a eu une reconstitution aussi des marges d'un certain nombre d'entreprises, hein, parce que tout le monde a anticipé certaines choses qui ne sont peut-être pas tout à fait produites. Donc il y a ce phénomène-là. Et puis, il y a la rareté du foncier, il y a le fait qu'on a des outils... je pense qu'un des premiers, enfin ça fait des années qu'on en parle, hein, le foncier c'est quand même le nerf de la guerre. Donc avoir des fonciers qui soient à des prix raisonnables, les coûts de construction maintenant quand les filières seront organisées, je pense qu'on aura aussi peut-être un phénomène qui permettra une petite désinflation. Mais en attendant, on a en tout cas de façon conjoncturelle une hausse des coûts et qu'on n'arrive pas à maîtriser, quoi. Alors après, les prix, effectivement, on constate une augmentation des prix. Bon, ça, c'est les prix faciaux. Ceux qui font de l'immobilier d'entreprise savent que les prix faciaux ne veulent pas dire grand-chose par moment. Ceci dit, bon, aujourd'hui, tout le monde constate que les promoteurs font des efforts. On a des programmes de rachat en bloc faits par Action Logement ou la Caisse des dépôts, qui vont effectivement nous demander, à nous, promoteurs, des efforts importants, mais qui permettront, parce que bon, on parle d'efforts de 14, des fois plus 15, 16%. En clair, on travaille pour rien. Les marges des promoteurs, aujourd'hui, vous les connaissez tous, hein, c'est entre, on les affiche à 8%, et quand on finit à 5, 6%, on est content. Aujourd'hui, c'est ça, hein, la feuille de route. Hein. Maintenant, on a de plus en plus de transparence. Tout le monde nous demande nos bilans. Donc, on a la transparence des bilans. Les banquiers les connaissent, les aménageurs les connaissent. Vous finissez par les connaître aussi, les notaires. Parce que vous êtes aussi notaire d'aménageur ou de donneur d'ordre. Donc, quelque part, nos marges sont faites. Donc, à un moment, on rogne nos marges, on rogne les frais commerciaux et puis on rogne nos honoraires. Hein, et puis on essaie de faire en sorte de maintenir le bateau à flot. Donc, tout ça pour dire que ces prix qui sont faciaux, vont peut-être se détendre un petit peu dans les mois qui viennent. On verra si effectivement l'inflation arrive à être absorbée, si les filières arrivent à s'organiser et si aussi sur la partie peut-être des aménageurs publics, où on arrive à avoir des aménageurs publics qui maîtrisent un peu leurs coûts de leurs fonciers, qui sont moins exigeants sur certaines choses. On verra si notre...
Que là, ils sont encore trop exigeants à l'heure actuelle ?
Ils ont aussi leurs équations à résoudre. Hein. On n'ignore pas qu'ils ont aussi des contraintes budgétaires qui font qu'on leur demande de faire plus avec moins, comme nous tous. Donc, mais il faut qu'effectivement, on ne peut pas tout avoir. On demandait tout, on l'acceptait dans un marché qui était haussier parce qu'on se disait la hausse des prix peut-être permettra de gommer. Bon, la fin de la récréation est arrivée, c'est le président qui l'a dit, hein, la fin de l'abondance, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est lui qui l'a dit, donc elle est vraie partout. Hein.
Alors peut-être on va passer à la slide suivante. Donc,
alors ça c'est un peu des choses qui mettent en perspective, effectivement. Bon,
concernant les logements sociaux, donc c'est vrai que là il y a une chute aussi.
Les promoteurs sont producteurs à 50% des logements sociaux en Île-de-France hein, et en France aussi. Hein. Je pense que si on faisait des stats nationales, aujourd'hui, les bailleurs sociaux, ils se concentrent sur leur cœur de métier qui est de louer du logement et de gérer du logement. Il y a de moins en moins de bailleurs sociaux qui font de la maîtrise d'ouvrage direct, même s'ils le veulent tous. Mais dans les faits, on s'aperçoit que 50% de la production en Île-de-France, c'est fait par les promoteurs privés, ce qui veut dire que si on ne lance plus d'opérations, bah, y a une chute drastique de l'offre de logement social, alors qu'on a une demande de plus en plus importante au regard des critères et puis des difficultés qu'on connaît tous. Donc, bah, ça pose un problème. Alors, vous le disiez, hein, madame, on est effectivement dans... C'est pas le problème des notaires, c'est pas le problème des promoteurs. Le logement, c'est un problème sociétal. Donc, il faut qu'on ait un parcours résidentiel. Donc, il faut qu'on rende ce marché plus fluide. Donc, il faut qu'on trouve des mesures structurelles et conjoncturelles, parce que sinon, ça va devenir très très compliqué pour beaucoup d'acteurs, mais aussi structurelles. Donc, effectivement, une grosse contraction. Après, l'investisseur privé, ben lui, au regard de tous les bâtons qu'on lui met dans les roues, l'investisseur privé, il a tendance à sortir du marché.
Là, il est dans l'attentisme, clairement.
Alors, il est dans l'attentisme, mais il y a encore eu des mesures qui sont sorties cet été sur les contraintes du bailleur. Je veux dire que quand on regarde la feuille de route, hormis l'attachement à la pierre que les Français ont, je veux dire, quelque part, effectivement, acheter des actions, c'est peut-être... Alors que c'est complètement contradictoire, puisqu'on nous demande de créer local, on nous demande de créer de la valeur ajoutée à travers... Bref, tout ça paraît très, très paradoxal par un moment, mais en tout cas, c'est le constat actuel. Donc nous, on milite et on va se retrouver, je pense, sur un certain nombre d'éléments pour créer un statut du bailleur privé. Quoi. Il faut créer ça. Parce que les institutionnels, on a essayé de les faire revenir, mais ils sont revenus, ils sont vite repartis. Il faut pérenniser le statut du bailleur privé et arrêter de un coup on offre, un coup on n'offre pas, on crée plus de contraintes, on taxe plus, la taxe foncière a augmenté de façon très importante. Bref, tout ça fait que...
On a besoin des bailleurs privés pour créer des logements.
Oui, il suffit de regarder dans les secteurs nouveaux, sur les nouvelles ZAC. Tout le monde rêve de faire que des résidences principales avec des acquéreurs, mais dans les faits, c'est faux. Si on n'a pas d'investisseurs privés pour lancer les opérations ne démarrent pas. Donc c'est utopique. Alors on rêve, on est dans cette utopie permanente, sauf que maintenant, bah, on est rattrapé par les faits, puisqu'il n'y a plus d'investisseurs privés.
Alors on parle des investisseurs privés, on va parler du Pinel, mais maintenant c'est le Pinel Plus, vous n'en faites pas du tout, quasiment.
Pinel Plus, vous avez... Non, je plaisante, mais on a essayé de dire à Monsieur le maire, à notre ministre de l'économie, que ça ne fonctionnait pas, le Pinel Plus. Alors, c'est notre ancien président Marc Villan et puis le président Pascal Boulanger qui ont porté la bonne parole à Bercy, mais ils n'ont pas été du tout entendus. Ils sont rentrés en disant le Pinel fonctionne, le Pinel Plus ne fonctionne pas. On leur a dit le Pinel ne fonctionne pas. Ils ont dit non, le Pinel fonctionne, mais le Pinel Plus ne fonctionne pas. Le ministre, en leur serrant la main, leur a dit « Oui, on est d'accord, le Pinel ne fonctionne pas. » Donc, on est dans un dialogue de sourds. Je pense que le Pinel, tout le monde, je ne vois pas comment ça, il va ressusciter. Donc, il faut qu'on s'attaque au statut du bailleur privé pour pérenniser un modèle qui existe dans d'autres pays et qui permettra aux gens de s'investir. Surtout qu'on joue un rôle. On a, dans le parcours résidentiel, le bailleur privé, sans vouloir parler de chose personnelle, mais enfin bon, moi j'ai fait du Borloo populaire, je fais du LLI, bref, on joue dans notre parcours résidentiel, on permet aux gens qui n'ont pas les moyens d'acheter tout de suite, d'être dans des loyers modérés, dans des zones qui sont tendues, hein. L'Île-de-France est une zone tendue, première région économique d'Europe, population 50 000 nouveaux ménages par an, on met en commercialisation 7 000 logements. Le logement ancien était un peu bloqué. Comment on lance les gens ? On voit bien sur la mise en location une tension énorme au niveau de la recherche de logement en location. Tous les gens le disent, il suffit de lire les articles de presse pour bien dire sûr qu'il n'y a plus de turnover non plus dans la location.
La location est surtendue. Hein. Pour une annonce, je crois que certaines agences ne mettent même plus les annonces puisqu'il y a beaucoup trop de demandes. Hier, c'est vrai qu'on a reçu un agent immobilier de Metz. Pour une annonce en location, en quelques heures, 231 candidatures.
C'est ahurissant.
C'est intéressant. Donc, c'est vrai que les parcours résidentiels sont impactés. Donc, Élodie Frémont l'a dit. Ça, c'est clair. Peut-on parler de conséquences plus globales sur l'ensemble du pays?
Après les chiffres, effectivement, c'est bon, l'immobilier, tout au moins la construction, on va dire l'immobilier, c'est de l'ordre de 10%, 10-15% du PIB français. C'est pas délocalisable. On fait vivre, que ce soit les notaires, les architectes. Bon, bref, c'est tout un tas d'acteurs qui vivent, entre guillemets, à travers l'immobilier au sens large. Hein. Je rappelle que les droits de mutation à titre onéreux, ça profite aux collectivités locales. Donc, le problème aujourd'hui, c'est le problème. On évoque le problème des notaires parce que c'est un impact des promoteurs, parce que c'est un impact des gens. Mais bientôt, les collectivités locales vont dire attendez, nous, on a un problème de financement aussi. Hein, de nos... Donc, on va se retrouver. Alors, dans notre malheur, j'ai envie de dire que peut-être que c'est le moment d'avoir l'union sacrée pour aller porter la bonne parole et qu'on sera peut-être entendu par nos gouvernants sur effectivement les bonnes mesures à prendre, en espérant pouvoir traiter le conjoncturel, mais également le structurel. Il n'est pas normal de mettre 4 ans avant de pouvoir lancer une opération. Il n'est pas normal qu'un PLU voté démocratiquement ne soit pas appliqué. Il n'est pas normal que tout le monde, s'investit dans la copie du promoteur et puis à la fin on lui dit maintenant c'est ton problème, c'est à toi de vendre. Il y a un moment, il faut que chacun fasse son travail et puis reste dans son couloir. Ça nous empêche pas, on partage les mêmes préoccupations.
C'est sûr que tous les professionnels, bon, les notaires, les promoteurs, les fédérations, la FNAIM, l'UNIS, SNPI, la FFB aussi, hein, qui a déclaré ces chiffres en juin, je crois, le nombre d'emplois qui seraient menacés, justement.
Je crois que c'est 135 000 à horizon 2025, hein, une contraction de 135 000 emplois. Donc c'est
dans le bâtiment. Hein, la FFB, c'est la Fédération française du bâtiment. C'est vrai que bon, est-ce que c'est une des premières fois où il y a autant de rassemblements, où c'est cette situation fédère en fait les professionnels?
Après, alors moi j'ai un historique, c'est pareil. Je suis probablement plus âgé que madame, mais sur le principe, moi mon parcours fait que j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années dans le bâtiment et depuis une vingtaine d'années dans l'immobilier. Donc la crise des années 90, je l'ai pas vraiment vécue en tant que promoteur immobilier, mais en tout cas, c'est une crise qui touche tout le secteur, mais on sent bien que le secteur est unanime sur le fait de dire il faut qu'on trouve des solutions communes. Parce qu'il y a du structurel et il y a du conjoncturel. Donc, il faut pouvoir traiter les deux. Et pour pouvoir être entendu, nous, promoteurs, on n'a pas été entendu. Tout le monde, président. Hein.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le sentiment qu'il y a une crise qui est arrivée, on l'a depuis plusieurs années.
Tout à fait.
Ça fait des années qu'on fait des propositions, on réfléchit sur les sujets. Évidemment, quand tout tourne et les années folles qu'on a vécues, ces propositions, elles tombent un peu à plat. Maintenant, on va les refaire vivre parce que le moment vient où on va pouvoir être entendu sur des sujets où finalement tous les professionnels immobiliers, je pense que vous avez le même constat, on est au carrefour d'injonctions contradictoires. On nous demande de faire de l'écologique, on nous demande de loger les gens, on nous demande de faire du social, on déporte certaines missions d'intérêt général sur le monde privé et à un moment donné, ça tourne pas parce qu'il faut aussi avoir des outils qui fonctionnent pour le faire. Le statut du bailleur privé, c'est une de ces réponses, mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Et je pense que vous avez aussi d'autres idées.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, bon, nous, je pense que c'est un des premiers éléments, c'est le statut du bailleur privé. Après, il y a effectivement des éléments conjoncturels. Vous évoquiez tout à l'heure le transfert effectivement des garanties. Vous avez raison, une personne aujourd'hui qui ne peut pas transférer son prêt, on est dans la possibilité de le faire. Donc, on se retrouve effectivement à rembourser un prêt par anticipation pour aller emprunter plus cher. Il faudrait être kamikaze pour faire ça. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, il faut effectivement que aussi le monde bancaire, il faudrait peut-être aussi réussir à mettre le monde bancaire autour de la table pour réussir à trouver des solutions communes qui leur permettent aussi de préserver leur garantie. Mais c'est pas très compliqué à organiser. Là, le transfert de garantie, ça paraît pas très très compliqué. Ensuite, effectivement, il y a Je pense que on a toujours le même problème. Moi, j'ai dans mes cartons, mais il y a pas que moi. J'ai des opérations que je ça fait 4 ans que j'y suis, quoi. Alors, on a des recours. On nous dit que c'est pas des recours abusifs. Bah si, c'est des recours abusifs. Mais comment le prouver?
Alors, par exemple,
Des recours surtout. Moi, j'ai une association dans une ville dont je tairai le nom, en première, deuxième couronne, placée près d'un grand plateau qui fait l'objet de beaucoup d'attention, on est attaqué sur tous les sujets. Le jour où on a signé le protocole avec la ville et les PFIF, on a été attaqué par une association qui est soi-disant là pour défendre l'environnement, ce qui est complètement faux. On est sur un sujet politique. C'est une association politique qui attaque toutes les décisions. Ils viennent de perdre surtout, sauf qu'ils continuent. Mais ces gens-là, si on les attaque, d'abord,
ça prend du temps, et puis c'est
un, c'est, on va nous expliquer que c'est leur droit d'attaquer, donc on ne peut pas prouver, entre guillemets, le côté malveillant de la chose, donc ça sert à rien. Donc on est prisonnier de ça. Alors, certes, en Île-de-France, on a des garde-fous avec les 10 mois, puisque ça doit être jugé dans les 10 mois, mais reste que derrière, il y a des gens qui poussent les curseurs. Les modifications de PLU, alors les PLU sont devenus aussi d'une complexité inouïe, donc ça c'est aussi un élément. Marc Villan, notre ancien président qui a démissionné hier soir, que je remercie pour toute son action, bien entendu, que beaucoup d'entre vous connaissent. Marc souhaitait, au nom de la FPI de France, porter aussi la numérisation des PLU pour que les maires se rendent compte. Parce que sur un papier, les gens écrivent des choses, mais après, quand on les met en volume, c'est impossible à mettre en place. Donc ça, il y a un travail à faire sur la mise en volume des PLU. Alors, c'est un sujet complexe, mais au moins, les élus se rendront compte de l'impact, ce qu'ils ont beaucoup de mal à faire. Donc, on a aussi c'est un chantier, c'est un vrai chantier, sur effectivement. Et puis après, sur la mise en place, et là, comme on est côté commune, il faut aider les maires qui bâtissent à bâtir, quoi. Hein, parce que sinon, ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils le disent tous. On n'a pas les moyens de faire nos équipements publics. On n'a pas les moyens de. Et puis après, je pense qu'il faut aussi. Mais là, c'est les injonctions contradictoires. On nous demande de faire du développement durable. Donc, on nous demande de plus faire de maisons individuelles. Donc, on nous demande de concentrer dans les centres-villes. Et quand on fait de la densification, on nous dit non, c'est pas possible parce que la population ne l'accepte pas. Donc il y a une pédagogie vis-à-vis de la population à mettre en place de la part des élus locaux, mais également du gouvernement. Je pense que, alors je crois que ça a été tenté une fois en disant que la maison individuelle c'était fini. Je pense qu'elle l'a dit une fois, mais elle l'a pas dit deux fois. Mais ça veut dire que quelque part, dans la, bah oui, parce que tout le monde rêve d'une maison individuelle.
Et elle en avait une, je crois.
Ah, probablement.
C'est ça le pire. C'est vrai que tout à l'heure, Marc Cagnard, vous évoquiez la politique du logement, hein, qui n'a pas l'air d'être la préoccupation. Du gouvernement et puis des gouvernements précédents également. Un nouveau ministre vient d'être nommé après ses fonctions. Il s'agit de Patrice Vergriete, hein, le ministre délégué au logement et à la ville. Est-ce que vous avez prévu de le rencontrer? J'imagine que oui. Comment vous voyez sa prise de fonction?
Écoutez, il arrive.
Hein. Ouais.
Donc, moi aussi d'ailleurs.
Oui, voilà.
Bien. Non, mais on va se réunir. Bon, de toute façon, on le disait avec le président de la Chambre des notaires. Je pense qu'il faut qu'on porte des propositions communes. Donc, je pense que ça, il arrive. De toute façon, aujourd'hui, il y a une forme de dogme par rapport à un certain nombre d'éléments. Donc, il faut que nous, on arrive avec des propositions communes. Le bureau de la FPI va se réunir pour définir les propositions des promoteurs qu'on proposera peut-être dans le cadre de la PUI pour valider un certain nombre de sujets, notamment des sujets peut-être plus techniques. Et donc, et après, porter la bonne parole auprès du ministre. Oui, bah, de toute façon, il faut qu'on soit entendu par nos gouvernants. Donc, il faut qu'on aille le voir. Il faut qu'on continue à essayer de faire de la pédagogie.
Et je pense que j'imagine, j'espère en tout cas que les gouvernants vont se rendre compte que les acteurs du terrain sont légitimes. Alors, les acteurs du terrain pour l'immobilier, c'est un peu facile, mais on est là pour expliquer ce qui se passe dans nos bureaux, dans nos études, qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça aboutit pas, et concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour décoincer certains verrous, et peut-être que en en décoinçant certains, on arrivera. Mais ce n'est pas forcément des mesures, comment dire. Et c'est ça qui est un peu, comment dire, décourageant dans certains cas, c'est qu'on nous demande de chiffrer les mesures. Combien ça va coûter, combien ça va rapporter. Et certaines mesures, c'est des mesures de bon sens qui ne sont pas chiffrables, mais qui sont de nature à déverrouiller ou à décoincer des aspects psychologiques du marché, parce qu'il y a beaucoup de psychologie aussi là-dedans.
C'est vrai que Bercy ne voit que les chiffres, mais il n'y a pas que
Voilà, et à chaque fois qu'on fait une proposition, il faut la chiffrer. Ouais. Mais il y a certaines propositions qui ne coûtent rien, et on ne sait pas ce que ça rapportera, mais on sait que ça fera du bien.
Alors juste, je rappelle que le chat est ouvert, hein, vous pouvez poser vos questions en direct, on y répond dans quelques instants. Est-ce que vous avez l'impression que les politiques sont clairement des administratifs, n'ont pas vraiment la vision du terrain
Il ne faut pas généraliser, certains ont vraiment une connaissance, une compétence sur certains sujets, mais je crois que l'un des gros problèmes de l'immobilier et du logement, c'est que c'est un sujet qui se règle sur un temps très long. Mm. Et le temps politique, ce n'est plus un temps long aujourd'hui.
On voit les ministres qui succèdent.
Donc de lancer un programme sur 5-6 ans, le politique qui le lancera n'en tirera pas les bénéfices. Donc c'est vrai que pour lui, en termes de calcul d'opportunité politique, ce n'est pas vraiment quelque chose de très porteur. Mm. Et à la limite, il lance les choses et c'est d'autres qui en bénéficieront. Donc, donc il y a certainement un sujet comme ça, mais à un moment donné, si on veut vraiment attaquer le sujet, il faut vraiment se pencher, faire intervenir tous les intervenants de la chaîne immobilière sur le sujet et de voir ce qui est cohérent pour avoir une vraie politique du logement et de l'immobilier cohérente.
Vous êtes d'accord avec ça, Bruno? C'est un
tout à fait. Le temps long pour le politique, c'est compliqué, hein, parce qu'on voit bien que il résonne à court terme. Après, on a un métier qui s'est quand même énormément complexifié. Il suffit de voir les actes.
Oui, hein, oui.
Aujourd'hui, lire un acte notarié complètement, c'est impossible. Je veux dire, on a des actes où même au moment où on cherche l'objet, parce qu'on ne sait plus où est l'objet, on ne sait plus ce qu'on achète, tellement il y a de documents qui sont...
Pourquoi on écrit ça
Et donc, exactement, donc, on a bien fait de passer la signature électronique, hein, parce qu'effectivement, ça devenait ingérable. Ouais. Donc on voit que c'est un métier qui s'est, de votre côté comme du nôtre, c'est extrêmement complexifié, avec chacun dans son couloir des obligations qui font qu'elles ne sont pas toujours compatibles. Et je pense que ça, le politique est incapable de le mesurer. Il est incapable de comprendre comment réellement les choses fonctionnent dans le détail. Or, on sait que dans nos métiers, si on n'a pas réglé tous les détails, on ne peut pas passer aux actes. Vous le savez comme moi, quand on vous dépose les pièces, s'il y a un papier qui vous manque, hein, on vit tous les CS de fin d'année, on va encore la vivre, je pense, cette année avec la fin d'un certain nombre d'avantages. Donc, c'est très compliqué. Et ça, je pense que on paye aussi peut-être...
Un programme qui aboutit, c'est un exploit quasiment. Dans
aujourd'hui, c'est un exploit, un programme qui aboutit, parce qu'il y a tellement d'obstacles. Après, on paye aussi peut-être aussi une déconcentration de tout le monde, la loi NOTRe, avec effectivement la chaîne maire, député, qui puisse porter, entre guillemets, au niveau de l'Assemblée nationale pour les lois, etc. Il n'y a plus cet ancrage de terrain. Et ça, je pense qu'on en souffre, parce qu'il y a des élus. Parce que quand vous êtes face à un élu, où un élu est confronté à vous, il se rend compte, un, la complexité de votre métier, parce que vous êtes obligé de l'impliquer dans un, et deux, il se rend compte que les promoteurs... ou les notaires, ou les acteurs du champ de l'immobilier, ce sont des vrais professionnels qui ont un métier très complexe. Et ça, ils le mesurent. Je ne suis pas certain que les gens qui sont à l'Assemblée nationale, s'ils n'ont pas eu un ancrage local, les mesurer. Quoi.
Alors, on va commencer à répondre à vos questions, puisqu'on en a déjà. Il y a Adrien. Alors là, c'est plutôt pour les notaires, je pense. Quel est le pourcentage que représentent les acheteurs étrangers, donc résidents plus non-résidents, dans le volume total de transactions? C'est vrai qu'on a évoqué le sujet tout à l'heure, Élodie.
Alors, il est en progression, mais j'allais dire, c'est un effet levier, enfin, c'est un effet mathématique.
Bien sûr.
Parce qu'à partir du moment où vous avez une baisse des transactions,
forcément,
si les étrangers non-résidents sont toujours présents, eh bien, il va y avoir aussi une inflation du pourcentage. Donc, on va les voir représenter quelquefois à 18% sur certains quartiers, même à 22%, je pense, à un quartier en particulier. Alors que il n'y en a pas plus qu'avant. Sauf que nous, les Français, on est moins nombreux qu'avant.
Vous, concernant les clients étrangers, les acheteurs étrangers, c'est quelque chose que vous voyez aussi?
Alors sincèrement, nous, on mesure l'investisseur, on ne sait pas s'il est étranger ou pas. Sincèrement, je n'ai pas de stats par rapport à ça.
Mmh. Alors continuez à poser vos questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour l'instant. Peut-être dernière question pour vous concernant la santé, l'état d'esprit aussi dans lequel sont les promoteurs en Ile-de-France.
Je pense que c'est difficile de faire une généralité. Ce qu'on sait, c'est qu'on souffre. Bon, je pense que tout le monde sait qu'on... Je pense qu'on va vraiment mesurer les conséquences à la fin de l'année, parce qu'il y a effectivement des premiers, on entend, alors c'est toujours relativement discret ce genre de choses, mais on entend effectivement les premières vagues de licenciements qui arrivent chez les promoteurs immobiliers, qui commencent à être annoncées avec la rentrée de septembre. Les TPE-PME souffrent énormément liés au phénomène de trésorerie, hein, puisque comme on le disait...
Bien sûr.
4 ans pour montrer des opérations, c'est donc 4 ans pour les monter, 2-3 ans pour les faire et ensuite 10 ans de responsabilité. Je rappelle qu'on est aussi engagé sur 10 ans. Donc tout ça fait que c'est compliqué au niveau des TPE-PME. On est très vigilant. Je pense que à la fin de l'année, on pourra vraiment tirer un bilan, mais on souffre, clairement, ça souffre.
Et bon, mais je crois que il y a plus de questions. Merci infiniment Bruno Allouin. Je rappelle que vous êtes co-président,
oui, co-président
de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers Île-de-France. Merci Élodie Frémont. Merci à Marc Cagnard. Le replay de ce club notarial est évidemment disponible à partir de demain sur la chaîne YouTube et sur le site de la Chambre des notaires du Grand Paris, notairesdugrandparis.fr tout simplement. Et puis vous retrouverez également les chiffres en intégralité de notre chère Élodie Frémont. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour le prochain Club Notarial Immobilier.
Le Club Notarial Immobilier, jeudi 7 septembre 2023.